VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des militaires mécontents ont parcouru aujourd'hui les rues de Boaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, en tirant l'air au lendemain d'une cérémonie ayant annoncé la fin des mutineries qui ont touché la Côte d'Ivoire depuis le début de l'année. Selon des témoins, des coups de feu similaires ont même été entendus à l'état-major de l'armée ivoirienne à Abidjan. Et jeudi, une cérémonie en présence du président Alassane Ouattara et d'un sergent mutin et plusieurs soldats avaient acté la fin des contestations. Un nouveau gouvernement dirigé pour la première fois depuis près de 30 ans par un premier ministre a été formé au Soudan avec l'objectif ambitieux de régler la crise économique et les multiples conflits avec les rebelles. La fonction de premier ministre avait été supprimée en 1989 après le coup d'État ayant porté au pouvoir M. Béchi. En décembre 2016, les députés avaient voté en faveur du rétablissement du poste. L'opposition, dont le principal mouvement dirigé par Sadek Al-Mahdi, ne participe pas au nouveau gouvernement qui compte 31 ministres, dont 4 femmes. À Brazzaville, les autorités congolaises ont lancé jeudi une opération de lutte contre de jeunes délinquants, communément appelés les bébés noirs. Claire Morin-Jebou.
L'opération a été officiellement lancée au commissariat central de la Tsiémé, un quartier nord de Brazzaville, mais elle concerne l'ensemble de la capitale. Selon le procureur de la République, André Ngakala Oko, l'objectif est d'éradiquer le phénomène des bébés noirs, autrement dit, toute forme de délinquance juvénile. Nous allons combattre par tous les moyens de droit et mettre hors d'état de nuire les bébés noirs et leurs complices, a averti M. Ngakala Oko, qui a dirigé la première patrouille mixte impliquant des gendarmes et des policiers dans plusieurs quartiers nord de Brazzaville. Les autorités n'ont pas communiqué le nombre d'agents impliqués dans cette opération. Les bébés noirs sont pour la plupart des jeunes adolescents drogués qui opèrent avec des armes blanches de jour comme de nuit à Brazzaville.
Le système judiciaire en Gambie, longtemps accusé de servilité envers Yahya Jammeh, fait face à une forte pression de victimes de son régime, réclamant justice après 2 décennies de torture, meurtre et disparition forcée. Des enquêtes sont en cours sur plusieurs dizaines de cas de disparition forcée, ayant permis, selon la police, une dizaine d'arrestations, notamment au sein des Janglers, les Broussards en français, considérés comme les escadrons de la mort pro-Jammeh.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
La Chine va continuer à aider sans contrepartie le Burundi, pays en crise depuis 2 ans, a annoncé hier à la presse le vice-président chinois Li Yuanshao en visite officielle à Bujumbura. La Chine va continuer à appuyer le pays dans des projets tels que des centrales hydroélectriques et d'autres projets de développement et va augmenter le nombre de bourses et stages pour les étudiants burundais, a expliqué le vice-président chinois Yuanshao. L'Union européenne et ses principaux États membres, de loin les premiers bailleurs de fonds du Burundi, ont pris depuis mars 2016 des sanctions contre le gouvernement burundais accusé de graves violations des droits de l'homme et de refuser de négocier une sortie de crise avec son opposition en exil. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai et Joyce Mujuru en tandem pour faire tomber l'inamovible président Robert Mugabe. Tsvangirai, figure historique de l'opposition, et Mujuru, ex-proche du président en rupture de banc, ont forcé le rapprochement malgré leurs différences. Cette alliance est fixée pour objectif de défier l'année prochaine dans les urnes le président Mugabe qui entend bien prolonger son règne. Sans partage de 37 ans, les discussions se passent très bien selon Mme Mujuru. L'ex-patron de la compagnie nationale d'électricité sud-africaine Eskom, Brian Molefe, un proche du président Jacob Zuma, va reprendre son poste quitté il y a 6 mois à la suite de soupçons de corruption. Derrière cette saga plane l'ombre de jeux politiques et des divisions au sein de l'ANC, écartelées entre clan pro-Zuma et un groupe de rivaux incarné par l'ex-ministre des Finances Pravin Gordhan, dont le limogeage à la fin du mois de mars a fait scandale. La compagnie nationale d'électricité est au centre de toutes les attentions à l'heure où l'Afrique du Sud envisage de relancer son programme nucléaire civil avec un méga contrat d'un montant de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ici à Washington, le président Donald Trump a justifié le limogeage du directeur du FBI, James Comey, en affirmant que sa décision n'avait aucun lien avec l'enquête de la police fédérale sur une éventuelle collusion entre sa campagne électorale et la Russie en 2016, mais sa déclaration n'a pas affaibli la tempête politique qui frappe Washington depuis l'annonce de ce renvoi spectaculaire. Ses détracteurs, dont les démocrates, exigent la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur les allégations de possibles liens entre Moscou et des membres de l'équipe de campagne de M. Trump. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
À la Maison-Blanche hier, après sa rencontre avec l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, le président Trump a été interrogé sur sa décision de licencier le patron du FBI.
Monsieur le Président, pourquoi avez-vous limogé James Comey ?
Parce qu'il ne faisait pas du bon travail. C'est très simple. Il ne faisait pas du bon travail.
Dans sa lettre à James Comey, le président Trump écrit avoir agi en fonction des recommandations des hauts responsables du ministère de la Justice, préoccupé par la façon dont il a géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton l'an dernier.
Hey, hey, ho, ho.
Le limogeage surprise de James Comey a entraîné des manifestations devant la Maison-Blanche et provoqué un tsunami politique dans le pays. Les démocrates du Congrès réclament que le ministre adjoint de la Justice, Rod Rosenstein, nomme dès maintenant un procureur indépendant pour diriger les investigations sur de présumées interférences russes et une éventuelle coordination entre Moscou et des proches de M. Trump durant la dernière campagne présidentielle américaine. Le chef de file de l'opposition démocrate du Sénat, Chuck Schumer.
S'il croit comme moi que le peuple américain mérite d'avoir confiance en l'impartialité de cette enquête, il doit nommer un procureur spécial et faire sortir cette enquête des mains du FBI et surtout de bien l'éloigner de la présente administration.
La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a rejeté les accusations des démocrates selon lesquelles le limogeage visait à mettre aux oubliettes l'enquête sur la Russie.
Il n'y a aucune preuve de collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et la Russie. Et en fait, nous aimerions que cette enquête soit bouclée afin que nous puissions tous passer à autre chose.
Certains républicains ont également exprimé leur inquiétude face au renvoi de James Comey et à son impact sur l'enquête du FBI. Mais le leader de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, qui s'oppose à la nomination d'un procureur spécial, a déclaré que les démocrates n'arrêtaient pas de critiquer les agissements de M. Comey lors de l'enquête impliquant Mme Clinton pendant la campagne présidentielle.
Nos collègues démocrates osent se plaindre du limogeage de ce même directeur du FBI, sur qui il tirait à boulet rouge, à maintes reprises et à vive voix.
La décision de M. Trump soulève beaucoup d'interrogations qui toutefois prendront du temps pour éclaircir, selon l'analyste Frank Cessneux de l'université George Washington.
Sont-ils en train d'essayer de ramener la discipline au sein du FBI ou ont-ils plutôt voulu se débarrasser de la personne au sein du FBI qui enquête sur l'administration ou sur des responsables de la campagne qui a réussi à faire élire Donald Trump?
Le président Trump a maintes fois rejeté les accusations de collusion avec la Russie, les qualifiant de canulars. Mais pour les observateurs, les derniers événements pourraient au bout du compte faire déclencher une enquête encore plus robuste sur les liens possibles entre Moscou et son équipe de campagne.
Merci Jacques. Au moins 10 personnes ont été tuées vendredi dans une énorme explosion dans la province instable du Baloutchistan au Pakistan, ont indiqué la police et des témoins. La déflagration visait apparemment un convoi transportant le vice-président du Sénat pakistanais Maulana Abdul Ghaffour Haidari, qui a été blessé, tout comme de nombreuses autres personnes selon la police, qui évoque la possibilité d'une bombe ou un attentat suicide. Le conflit au Yémen devient de plus en plus complexe en raison de profondes divisions qui mènent les deux camps rivaux, celui du gouvernement légitime et celui des rebelles, éloignant encore les perspectives de paix. La dernière crise en date a été déclenchée jeudi par l'annonce par des militants séparatistes opposés au président Abd Rabo Mansour Hadi de la création d'une autorité parallèle pour administrer le sud du pays, une démarche fermement rejetée par ce dernier. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon week-end et à bientôt. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.